Comment Rachid Merah présente les choses et voir les mêmes phénomènes sous d'autres angles d'analyse. Et donc, c'est cette question du modèle politico-économique. En fait, on dit souvent que cette question que vous montrez très bien, cette énorme intervention de l'État, dans lesquels l'État, c'est le principal investisseur et c'est le moteur de l'économie, et qui arrive quand même à faire une économie non pétrolière parce qu'il diversifie les investissements. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est une économie qui, d'une certaine manière, a besoin de toute façon en permanence d'un appui par l'injection des capitaux aux entreprises. Donc, c'est un peu et aussi la question du revenu fiscal qui est issu des impôts qui paye PDVSA à la Banque centrale vénézuélienne, de la vente du pétrole des marchés internationaux. Donc, il y a comme plusieurs sources de revenus qui expliquent un peu une complexité de la gestion de la manne pétrolière. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a comme des ramifications gigantesques. Et que dans les cas vénézuéliens, c'est date et en plusieurs modèles et plusieurs moments historiques, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc, c'est un pays aussi producteur de pétrole, fondateur de l'OPEP, et avec une modernisation liée aux hydrocarbures et aux effets de cette rente dans la vie sociale. Déjà, ce qui est intéressant avec la comparaison de l'Algérie, c'est que la crise précédente du Venezuela, celle des années 80 et 90, montrait les mêmes symptômes que la crise sévère qui affecte aujourd'hui les gouvernements de Maduro, mais avec aujourd'hui des effets multipliés, exponentiels. En fait, c'est un peu les mêmes raisons structurelles, mais multipliées par 10 000. Voilà. Donc, c'est inflation, réduction du PIB, pénurie, rupture des stocks, mais dans une moindre échelle, beaucoup moins. Et la conséquence de la crise des années 90 a été surtout d'ordre politique. Il n'y a pas eu un changement structurel, mais c'était une question de faire sortir ce qui avait maintenu le bipartisme. Et on a fait un pari anti-politique. C'est-à-dire sacrifier les partis du bipartisme en faisant, disons, qui étaient les responsables de tous les maux pour cette opinion publique, mais qui, bon, c'est, comment dirais-je, ce qui est discutable en fait, finalement. Sacrifier les régimes des partis, est-ce que c'était finalement une bonne idée? Mais au Venezuela, à cette époque, Cantaura, qui est plus jeune que moi, mais qui au moins on a étudié dans la même université, il y avait cette époque des manifestations quotidiennes pour réclamer des augmentations salariales, appauvrissement de la population. C'était un rejet croissant des partis et finalement de la démocratie représentative. Et les partis ont été tenus pour responsables de la crise. Et surtout, ils se sont montrés incapables de trouver une solution. Parce que les grands leaders des années 60, surtout après 58, avaient disparu. Et les nouveaux arrivés n'ont pas été à la hauteur des réformes qu'on aurait pu faire, qu'on aurait dû faire. On a préféré un peu sacrifier les réformistes. Et il y avait d'autres un peu plus néolibéraux qui ont été sacrifiés aussi, dont M. Ricardo Haussmann, qui est à Harvard. Qu'elle a été ministre de l'économie en 89 jusqu'en 92, et c'était un peu la solution plus néolibérale de la chose, et qu'on est tous sûrs qu'il a déjà son projet de pays pour l'avenir fait aux États-Unis. Mais bon, on va voir s'il pourra les mettre en place, il le souhaite. Mais bon, c'est les élites. Que c'est pas lui, justement, parce que lui, il n'a pas réussi à se maintenir, mais c'est ces élites-là qui n'ont pas laissé rentrer les réformateurs, ni les plus de gauche, ni les plus néolibéraux comme lui. Donc, lorsqu'on regarde les sondages de cette époque, on se rend vite compte que les Vénézuéliens étaient à la recherche d'un homme fort. Et ça, c'était déjà extrêmement inquiétant. Je pense qu'on ne l'a pas pris assez au sérieux. C'est l'idée qu'il faudrait un mouvement contre la démocratie représentative qui instaure ou contre la politique tout court. Et c'est de là que je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour la démocratie représentative. J'ai fait un peu un état des choses de ce que les gens disaient à l'époque. Et donc, c'est pour ça que l'accueil à Chavez en 92, avec ses deux coups d'État ratés, manqués, les deuxièmes, ce n'est pas directement lui, mais c'est ses hommes quand même, ont eu un tel impact dans l'imaginaire tellement marqué par le militarisme qu'on avait réussi à contenir pendant entre 58 et 98. Mais voilà, c'est les militaires messianiques qui viennent sauver, avec un énorme talent politique, parce que c'était un grand homme politique doté d'une intelligence pour déchiffrer et surtout pour faire évoluer son discours au fur et à mesure que l'opinion publique lui était favorable. Donc il fait cette rupture et aussi l'émergence d'une nouvelle élite. Et au premier front, un Hugo Chavez qui promettait de résoudre la crise vénézuélienne par l'instauration d'une démocratie participative, qu'on n'a jamais pu vraiment mettre en place, mais c'était ça les mots d'ordre, qui comprenait un modèle économique alternatif qui n'a pas été instauré non plus, dans lequel on a complètement échoué, qui ne s'est jamais concrétisé, qui n'est jamais arrivé. Donc, en relation au pétrole, qui c'est un peu les sujets par les biais par lesquels on peut comparer avec l'Algérie, c'est les changements radicaux du statut de l'industrie pétrolière après 1998. Donc, depuis la nationalisation du pétrole en 1975 et jusqu'à la grève nationale de pétrole en 2002, PDVSA avait un statut d'entreprise publique autonome organisé autour d'une méritocratie technocratique qui ne dictait pas la politique économique. Et il y avait une querelle permanente entre les ministères des mines et des hydrocarbures qui dictaient la politique des ventes, les quotas par rapport à l'OPEP, les négociations à l'OPEP, etc., et la politique un peu industrielle de PDVSA. Donc PDVSA faisait ses partenariats et ses transferts des technologies et ses investissements, décidés sur la politique même de l'industrie en tant que telle. Mais ce qui concerne la gestion fiscale, c'est-à-dire PDVSA devait rendre compte au ministère des Mines et des Hydrocarbures et verser sa partie, et il l'a toujours fait d'ailleurs, sa partie des ventes directement à la Banque centrale. Mais là, il y avait, comment dirais-je, il y avait cette tension entre l'entreprise qui était en soi en meilleure santé que le ministère lui-même, d'une certaine manière. L'entreprise, elle était plus riche, elle était plus puissante, parce que c'est elle qui produisait. Les ministères, c'était comme les petits organes parasites qui dépendaient de l'entreprise. Et là, il y avait une dispute et un conflit politique jamais résolu, qui éclate d'une manière très brutale en 2002, en partie par la mise en cause de la part de Chavez de la politique de PDVSA de s'ouvrir sans se privatiser quand même. Je pense, là, je diffère, parce qu'il y avait un enjeu que c'était comment trouver de l'investissement pour exploiter les pétroles lourds, les huiles lourdes, qui méritent beaucoup d'argent. Et l'État vénézuélien et PDVSA n'avaient pas la possibilité d'exploiter ça. Et c'était un peu la donne des nouveaux marchés pétroliers. C'était les sables bitumineux au Canada qui apparaissaient, qui étaient pareils. Et c'était le nouveau business pétrolier. Et PDVSA a agi à un moment donné d'une manière trop autonome, d'une manière trop... 94. C'était lors du gouvernement de Caldera. C'est lors du gouvernement de Caldera où les choses se gâtent. Parce que Chavez est en prison. Caldera doit l'amnistier, la pression politique était trop grande, et PDVSA en même temps faisait une politique qu'on appelait l'ouverture, que c'était l'ouverture à des capitaux privés pour investir, pour exploiter des huiles lourdes et pour refaire les raffineries, etc. Mais je pense que c'était un mouvement propre de la mondialisation aussi. La pression de la mondialisation était trop forte. Et PDVSA s'est comportée comme une majeure du pétrole. Elle ne se comportait pas comme les représentants d'un État. Et là, ça éclate le modèle. Ça éclate cette harmonie qui avait plus ou moins fonctionné entre le ministère des Mines et PDVSA. Et ça nous amène à 2002, à la grève du pétrole. Mais là, je vais trop vite par rapport à ça. Là, je suis... Donc, jusqu'avant 1998, et c'est un peu là, je vous lis un peu les parties de mon travail sur l'industrie pétrolière, elle avait un cadre légal qui lui permettait d'agir d'une manière autonome et qui établissait les lignes directrices en matière d'exploration et de production, et dans les domaines du downstream aussi, c'est-à-dire les raffinages. C'est-à-dire c'est une entreprise qui fonctionnait d'une manière très complexe, parce qu'elle faisait tout. Elle cherchait les nouveaux puits, elle exploitait les puits, elle raffinait et elle vendait. Donc c'était tout un système puissant et relativement indépendant de ces décisions stratégiques du gouvernement. Et c'est ce qui amène à la gauche à dire « mais c'est un État dans l'État ». Et ça, ça crée des ressentiments terribles, parce que justement, elle devient en elle-même quelque chose d'extrêmement performant. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant, en fait? Parce que là, il y a la question des doctrines et des manières de voir ça. Comme c'est un ancien producteur de pétrole, et il y a eu des économistes, etc., qui se sont penchés sur la question... Entre 58 et 98, en fait, c'est, nous, la substitution des importations, on l'appelle la politique de semer les pétroles, entre guillemets. C'est-à-dire d'investir la rente dans d'autres domaines et diversifier l'économie. Et c'est ce qu'ils appellent donc colonial, parce qu'il y a des dérapages, bien sûr, dans ces investissements pour créer parfois une illusion d'harmonie, mais une illusion de progrès. Et Chavez prend des décisions après, lorsqu'il arrive au gouvernement, c'est-à-dire la tension. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 1998-1999, c'est la constituante et la refondation de la nation, et en 2002, l'industrie ne tolère plus que les gouvernements interviennent dans ce qu'elle considère que c'est ses prérogatives et ses manières de fonctionner. Et c'est là où se déclenche cette énorme grève qui marquera le Venezuela à jamais, avec raison ou à tort. C'était les entretiens que j'ai fait des gens à l'époque. Il y avait beaucoup de gens qui étaient dans des dilemmes si se joindre à la grève ou pas. Il y avait des choses qu'ils considéraient intolérables, comme montrer son adhésion au parti politique au pouvoir et à Chavez, au sein même des installations pétrolières. Ça, il y avait ça. Mais il y avait aussi les plus hauts cadres qui ne voulaient pas se subordonner aux directrices du ministère des hydrocarbures. Et là, et comment dirais-je, j'ai présenté ça avec un expert argentin du pétrole qui habite Paris. Il m'a dit, mais vous vous rendez compte aussi que la pression était de la part à niveau international de vouloir intervenir dans les pétroles vénézuéliens de la part d'autres puissances. C'est-à-dire, c'était déplacer les partenariats commerciaux classiques des PDVSA pour la Chine, pour la Russie, et Total, elle est restée. Elle a négocié, elle est restée dans les lourds avec des petites franges, mais elle me dit, mais vous ne voyez pas que ce n'est pas une nationalisation qui fait Chavez, c'est un changement de partenariat.
Et la grève, c'est...
C'était la grève, c'est une grève à la fois nationale et pétrolière.
C'était contre
Chavez. C'était contre, parce que Chavez voulait prendre complètement les contrôles et dire PDVSA c'est un État dans l'État, et au lieu qu'elle soit autonome, on va intervenir pour avoir accès aux revenus avant qu'elle les verse même à la banque centrale. On veut fouiller les comptes et on va être là à décider qui sont les partenaires et où on investit, les revenus. Et ça a été, ça fait que PDVSA devienne une compagnie qui est directement, parce qu'avant, directement, elle n'intervenait pas. Elle donnait l'argent à la banque centrale et la banque centrale redistribue. Donc, d'un coup, on voit avec étonnement que PDVSA fait des supermarchés. Vous avez des supermarchés PDVSA. Et vous avez des dispensaires PDVSA et des cliniques PDVSA. Et vous voyez, donc, c'est là, avec un slogan politique, l'argent de pétrole arrive finalement aux Vénézuéliens. Et on fait que PDVSA soit les bras financiers du pouvoir exécutif. Mais le problème, c'est que la priorité de l'industrie pétrolière n'est plus le pétrole. Et on arrête les investissements pétroliers. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des raffineries délabrées, avec un patrimoine industriel qui est délabré, parce qu'on arrête l'investissement, parce que l'argent qu'elle gagne, l'industrie pétrolière, elle a besoin, il y a des pourcentages établis sur combien on doit réinvestir dans le pétrole lui-même. Ce n'est pas peut-être l'industrie la plus chère, mais il faut la maintenir, la technologie change, et surtout les défis qui signifient les lourds de l'Orénoc. C'était énorme au niveau investissement et technologie. Et petit à petit, elle perd la capacité d'être à la pointe dans les domaines de la production. Et elle se met à faire un tas de choses. Donc, et on finit la méritocratie, c'est-à-dire que les chefs des projets seront plus les mieux qualifiés, ceux qui ont fait les ingénieurs chimistes, les ingénieurs de pétrole, mais ça va être un militaire qu'on va imposer, un général de l'armée des terres qui va venir, qui ne connaît rien de pétrole. Ça, je l'ai vu dans le cas de la raffinerie d'Amoy. On a nommé comme chef de la raffinerie des généraux qui n'avaient aucune idée de quoi faire devant un tableau des hautes technologies. Vous voyez que des petits boutons qui brillaient. C'est lui-même qui est. Donc c'est ça, ça a servi à qui en fait finalement cette structuration. Aujourd'hui, ces raffineries là sont un membre de Rosneft. Donc avant c'était, donc on peut se demander, c'est pour ça que l'expert en pétrole me dit, mais vous ne vouliez pas qu'il y avait un plan, je ne sais pas, je ne suis pas complotiste. Mais en tout cas, il y a toute une série de décisions politiques qui ont amené à ces résultats-là. Si c'était leur projet initial, je ne sais pas. Il y a un autre économiste, Adrual Batista, qui était très marxiste d'ailleurs, j'ai beaucoup d'entretiens avec lui, mais il me dit, mais vous vous rendez compte que Chavez n'avait aucune idée quoi faire avec le pétrole lorsqu'il arrive au pouvoir. Comme les militaires d'ailleurs. C'était un autre monde. C'était un pays très fracturé d'une certaine manière. Le monde pétrolier était un monde. Le monde militaire était un autre. Et on ne savait pas grand-chose de ce qui s'est passé, ni dans l'un ni dans l'autre. Et cette militarisation de la société vénézuélienne passe aussi par la militarisation de l'industrie pétrolière. Donc. C'est
le nerf de la guerre, c'est l'argent.
En effet, il fallait pas prendre le contrôle de ça. Et pour vous donner une idée de ce qui se passe dans cette grève du pétrole en 2002, donc c'est en 98, l'entreprise avait 42 000 personnes et était extrêmement importante et performante, productive. Et en 2013, elle a 111 000, c'est-à-dire elle triplie, parce que donc il y a une question de clientélisme, de donner des emplois dans l'industrie, parce qu'il avait la possibilité de payer beaucoup d'employés sans que cela soit forcément les mieux qualifiés, etc. Donc c'est une question de faire du clientélisme aussi à partir, donc on s'est rendu d'un coup, PDVSA commence à embaucher beaucoup de monde parce qu'il a la possibilité, ça devient comme un ministère. J'ai eu un entretien qui dit, PDVSA est devenu comme un ministère. Et tout un état, avant, elle était aussi une entreprise publique, mais très autonome. Et là, c'était une nuance importante. Donc, et pourquoi il y a cette grève aussi? Il faut se rappeler, en fait, tous les points, disons, culminants, paroxystiques, c'est le 11 avril 2002, lorsqu'il y a un coup d'État contre Chavez, qui a été un peu l'erreur mortelle de toute opposition et qui va, disons, comment dirais-je, empêcher une opposition, l'effet d'avoir, de faire un contre-pouvoir et de faire une vraie opposition, c'était la méfiance d'avoir participé dans ce coup d'État manqué contre Chavez. Qui après, donc, Chavez retourne, c'est les personnes qui ont fait les coups d'État, donc, prennent l'exil, s'en vont, on détruit la possibilité, donc, justement, on fait que Chavez endurcisse énormément ses positions, et il y a un bras de fer entre les secteurs commerciaux, les entreprises privées, PDVSA et les gouvernements. Et Chavez l'a résolu de la manière la plus, disons, forte qu'il a pu trouver. Et c'est reprendre donc complètement les contrôles de l'entreprise pétrolière en renouvelant les cadres parce qu'il les a accusés de putschistes. C'était, vous êtes des putschistes, mais lorsqu'on fait l'entretien, les gens font pas, ils se sentent pas qu'ils sont en train d'être putschistes lorsqu'ils font la grève du pétrole parce que les tanks... Arrêter une raffinerie de pétrole, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose qu'on débranche. Ça a été énorme. Il ne se sentait pas comme des putschistes, mais en train de protéger. Mais je pense qu'il a eu une instrumentalisation politique assez perverse de ses mécontentements par ceux qui ont fait ces coups d'État manqués, qui a été d'une énorme erreur. Donc, Chavez fait quelque chose de très fort. C'est en décembre 2002, dans ses émissions radio-télévisées, Allô, Presidente, il commence à nommer un par un les noms des cadres de l'industrie pétrolière. Il dit, avec un sifflet, il dit virer, 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 virer. Ça, j'ai interviewé ces cadres. Il y a des gens qui ont été notifiés que Chavez était en train de faire ça dans leur bureau et n'ont même pas le temps de passer chez eux. Il y a quelqu'un qui est venu leur apporter un passeport et ils sont partis. Ils ont quitté le pays. Je connais 3 personnes dans cette situation-là et qui ont perdu comme ça leur pension, 20 ans de carrière, pension, salaire. Et c'est des cas qui sont dans les tribunaux de l'Organisation internationale du travail, à l'OIT, parce qu'on parle de 18 000 personnes qui sont restées sans pension, sans retraite, qui ont perdu leur salaire, leurs appartements, des familles déchirées. En fait, ça a été une chose extrêmement dure et violente, très mal digérée, parce qu'on fait l'amalgame de ça avec la situation politique. Et ces cadres et des ouvriers aussi, très qualifiés, aujourd'hui sont au Canada, au Qatar, il y a même en Iran, en Arabie Saoudite. Et au Qatar, beaucoup, en Norvège, il y a beaucoup au Canada à cause de l'acquis, de la connaissance pour exploiter les huiles lourdes, que c'est les sables bitumineux, très en termes de composantes en sulfure et manière de raffiner, c'est presque les mêmes. C'est la ville de Calgary qui a fait, le maire a fait une énorme pancarte qui disait « Thank you, Mr. Chavez ». Parce qu'il y a 10 000 Vénézuéliens qui sont arrivés là d'un coup, non, moins 5 000 à peu près, ingénieurs, qui ont sorti, qui avaient la connaissance pour exploiter. Et donc, vous avez une grande communauté vénézuélienne à Calgary depuis 2002. C'est des choses assez hallucinantes qui relèvent de cette mondialisation des connaissances et cette circulation des connaissances et des gens qu'ils ont plus, bien sûr, qu'ils ne vont plus jamais revenir après, presque 20 ans après. Quoi. Donc, ça c'est pour la question des PDVSA qui continue à rouler et que, hop, miracle, les prix du pétrole montent et cachent cette situation. C'est une sorte de... On couvre le trou, voilà, et ça monte. ça monte et il y a les prix dont je vous ai parlé. Et je voulais un peu, voilà, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais pour avant, peut-être pour, parce que le temps passe et je voudrais après, il y a par rapport à la périodisation critique, c'est ce qui se passe un peu entre cette la formation d'une industrie en tant que telle, parce que PDVSA arrive pas tout de suite, elle devient d'abord la manière de faire la, on appelait à l'époque pas nationalisation, mais on appelait rétrocession des concessions. C'était intéressant de voir ça. Et donc, ce qu'on fait, c'est que les peu de concessions qui restent, elles changent de nom, les camps pétroliers. Et donc, Shell devient Marabén, Creole devient Lagovén. Et c'est des vins, parce que c'est Venezuela. Et c'est selon, avec des cultures d'entreprises extrêmement différentes et des manières de fonctionner. D'ailleurs, la raffinerie où j'ai travaillé, il y avait une partie qui était créole et l'autre partie était Shell, ils doivent se fusionner et ils font une seule raffinerie. C'était un peu l'héritage des États-Unis, mais avec une sauce vénézuélienne qui s'impose. Et c'est après qu'on fait un grand consortium PDVSA. Et la question, je reviens sur ça, parce que d'une certaine manière, c'est une sorte de long processus qui éclate. En fait, c'est quelque chose qui a été très structurant même de la structure elle-même du pays, de la manière dont on a façonné la société vénézuélienne, surtout après entre 58 et après avec la nationalisation. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous disiez, peut-être voir plus de près ce qui se passe. Au tout début de l'apparition du pétrole, c'était encore un pays, c'est le général Gomez gère ça comme une sorte d'économie de plantation jusqu'à l'année 36, c'était à l'époque, c'est très intéressant de voir parce que c'est vraiment où ça marque une différence énorme avec le reste des pays de l'Amérique latine. La Colombie était à côté, c'est un pays harmonieusement agricole, avec ses plantations de café, ses cannes à sucre, son héritage de l'époque coloniale, avec les Noirs d'un côté, les Indiens de l'autre, tandis que le Venezuela, c'est une sorte d'explosion démographique où tout le monde quitte la campagne et vont au camp pétrolier. Et ça, c'est très violent et ça marque la différence. Et ça, c'est ce que je voudrais un peu voir. C'est pour ça qu'on appelle les cas, l'effet Venezuela, les cas vénézuéliens, parce que c'est toujours cette différenciation. Exact. Exact. C'est pour ça que j'ai fait mention à ça, parce que je sais. Et l'autre chose intéressante, c'est les théories économiques par rapport, parce qu'il y a des gens quand même qui ont été, on les appelait dans les années 60 et 70, les économistes des gauches, on les appelait les prophètes du désastre. Les prophètes du désastre, c'était un livre comme ça. Je me souviens, mon papa l'avait dans sa bibliothèque, Los prophètes del désastre, c'était ça. Et c'était des gens qui ont vu ça. C'était des gens qui ont vu ça d'une manière très bien, dont le fondateur de l'OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonso, qui était nommé le gentleman guerrillero. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est un peu derrière la nationalisation, mais il arrive dans des... C'était d'une certaine manière des gens qui disaient ça ne peut que faire une économie destructrice et éphémère. Cet argent, il faut qu'il soit jalousement contrôlé par l'État, parce que comme il n'y a pas derrière un travail socialement, une production sociale de ses revenus, on va les distribuer avec les critères de quoi, d'une piñata, c'était ça. C'était, on ne peut pas faire la piñata des revenus pétroliers, il faut que ça soit quelque chose de comment introduire une rationalité dans cette distribution. Et c'est pour ça qu'on parle de s'aimer le pétrole et qu'on parle de ceci. C'est pour ça que les gens de la CEPAL voit ça de loin, parce qu'il n'y a pas d'autres cas comme ça. Le Mexique, c'était différent, je pense, par rapport à l'énorme revenu du Venezuela et de la qualité des huiles légères qui donnaient une énorme force à l'État pour investir. Donc, il y a des formules quand même vénézuéliennes de Pérez Alfonso ou Larpietti pour empêcher la Dutch disease, la maladie hollandaise de s'installer. Il disait il faut combattre ça parce que ça ne va pas favoriser l'investissement productif, parce que ça va engendrer de la spéculation, ça va engendrer de la corruption. Et c'est pour ça qu'on a cette sorte de dialogue, que c'est très bien écrit. Il y a un petit livre très beau qui s'appelle « Le pétrole dans la pensée économique vénézuélienne » de Asdrúbal Batista, où on dit, on prend les économistes qui depuis les années 40, 50, 60, les ministres des pétroles de Gómez, que c'était Gumercindo Torres, et c'était tous ces gens-là qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Et comment faire pour que ça apporte des bonnes choses et ça ne détruise pas la possibilité de développement. Et c'est Pérez Alfonso donc qui va négocier aussi dans les premières réunions de l'OPEP. C'était une pensée assez anti-américaine. C'était pas, je pense qu'il y avait Chavez là, il réinvente beaucoup comme si les autres étaient les laquais de l'Empire. Et c'était pas ça. En fait, déjà, Pérez Alfonso, c'était dans les années 60. Et la décision de la rétrocession avec les États-Unis, c'était un bras de fer. Et Carlos Andrés Pérez avait déjà des relations importantes avec Cuba. On n'a jamais rompu avec Cuba. Enfin, il y avait. Et Fidel Castro va à la prise des pouvoirs de Carlos Andrés Pérez en 89. Enfin, il y avait cette sorte de posture anti. Mais à la fois, c'était les premiers partenaires commerciaux. Enfin, tout, comme on dit, bien sûr. Et toute la côte est américaine, comme on dit, roule avec de l'essence vénézuélienne. Donc, de Boston jusqu'à Miami, cette partie des États-Unis a roulé avec les huiles lourdes, les huiles légères vénézuéliennes. Et c'est pour ça que donc PDVSA investit en Citgo, que c'est la grande raffinerie aux États-Unis, à New Jersey, qui maintenant elle est en faillite. Il fallait le faire. Et qui font donc des partenariats extrêmement forts, et que peut-être, en effet, c'était extrêmement convoité, ça. Et là, je l'appelle cette crise, ça y est, ça fait une demi-heure que je parle, donc un peu pour voir qu'il y a beaucoup d'impostures, je pense, dans ces mécanismes qui incitent aux fonctionnaires et sous-traitants de la corruption. Je n'ai pas expliqué finalement ce que je voulais expliquer sur comment fonctionne l'attribution des devises. Parce que PDVSA, donc, le pétrole se vend en dollars. Et donc, ça rentre en dollars et il faut l'échanger en bolivar. Et c'est là où se trouve. C'est là où se trouve l'enjeu de la chose. Donc, ils ont plusieurs taux, un éventail de taux avec lesquels ils jonglent. Et c'est une sorte de bicyclette financière que si ça existait avant avec deux taux d'échange, Chavez crée 5 et Maduro 10. Et ça fait en fait, il y a un taux d'échange différent selon les biens qu'on va importer. Et ça devient aussi que l'importation soit le business le plus lucratif dans les pays et pas la production. Et c'est pour ça, et en plus avec les partenariats commerciaux de Chavez avec les pays de l'Amérique latine, donc on se trouve dans les marchés vénézuéliens avec des haricots noirs achetés au Nicaragua avec un taux d'échange particulier, avec du lait de l'Uruguay, avec des poulets du Brésil, avec des... Et ça a été quand même quelque chose qui a transformé l'économie vénézuélienne, parce que ce n'était pas comme ça avant. Et nous, on connaît ça maintenant. Ce n'était pas comme ça, hein, parce qu'il y avait l'idéologie de semer des pétroles, parce qu'il y avait l'idéologie... On n'a jamais été complètement autonome, mais on n'a pas été dépendant jusqu'à ce niveau-là. jusqu'au niveau du lait et jusqu'au niveau de la... Au contraire, les Vénézuéliens exportaient de la nourriture aux Antilles françaises. On a du mal, c'est intéressant de voir la carte. Les Vénézuéliens fournissaient la Martinique des poulets, par exemple. La Martinique, c'était une économie de plantation, c'était banane, canne à sucre. Hein. Et Venezuela exportait des oranges en Martinique et des produits. Donc c'était ce qu'on vit maintenant, c'est inconnu et c'est les paroxysmes de cette. Il y a aussi des choses importantes sur comment se font les choses. En termes de cette expansion démesurée des dépenses publiques qui augmente la liquidité, mais qui font aussi une énorme pression sur les marchés noirs. Donc, c'est impossible qu'il n'y ait pas un marché noir. C'est impossible qu'il n'y ait pas un marché noir des devises. Ça, c'est quelque chose qu'il faut... Et c'est impossible aussi qu'il n'y ait pas des détournements frauduleux des entreprises qui reçoivent les devises. Et PDVSA devient une entreprise qui importe de la nourriture. Et quand même avec des gens qui ont de la corruption et qui investissent la différence des dollars reçus au Panama, en Andorre, et qu'on le voit aujourd'hui, certains que j'ai connus parce qu'ils ont géré les programmes des sinistrés et de la catastrophe sur laquelle j'ai travaillé. Donc, c'est pour ça que vous avez, par exemple, des containers qui apparaissent de manière fantasmatique dans les campagnes vénézuéliennes pleines de poulets pourris, du lait pourri, des médicaments périmés. Et là, derrière ça, il y a une attribution d'un montant de dollars pour acheter à surprix, puis les containers arrivent et puis la personne pour les recevoir et les gens crèvent de faim. Donc c'est une sorte de pire cauchemar des choses qu'on a connues de ces systèmes. Et c'est ce qui arrive, c'est le cas de Pedevalde, de Pedevalitos. C'est des scandales de corruption qui se succèdent, mais la bicyclette financière continue à fonctionner par milliards et des milliards de dollars. Donc là... C'est pour ça que bon, c'est un système assez irréel dans lequel c'est logique qu'il y ait un fort mécontentement et qu'on ne voit pas beaucoup de sorties dans les cadres pacifiques, en fait. Parce que c'est devenu maintenant une caste militaire qui contrôle ce système-là.
Et sur le plan économique, la sortie elle est très rapide. Il suffit de prendre quelques mesures et tout ça s'effondre. Hein.
En effet, et Maduro a parfaitement pu le faire.
La distorsion de marché qu'on peut réduire, d'ailleurs, en effet.
Un peu d'or.
Tout
à fait. Mais c'est ça qui maintient le système politique et les gens au pouvoir. En fait.
C'est ça.
C'est complètement politique. Tout à fait. Bah, dans les mauvais sens du terme. C'est plutôt lié à une stratégie de pouvoir. Surtout, c'est intéressant au niveau sociologique. Ça s'est traduit dans la création d'une nouvelle élite qui est extrêmement puissante au niveau financier, qui a des liens permanents avec le Texas, parce que c'est là où ils font les business pétroliers, avec Miami, etc. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit que les sanctions économiques détruisent l'économie vénézuélienne, il y a une énorme imposture, parce que ce qu'a fait les États-Unis, c'est découvrir qu'il y a des pourboires énormes dans l'attribution des contrats pour gérer le pétrole vénézuélien au Texas. Et je ne dis pas que ce soit angélique de la part des États-Unis, parce que pourquoi ils ne se sont pas rendus compte avant, quoi. Ils ont laissé agir aussi, hein. C'est pas un système qui s'est fait en deux jours, mais c'est pour ça que donc vous avez des généraux vénézuéliens en prison aux États-Unis pour avoir géré des malversations liées au pétrole au Texas. C'est énorme et en fait on compte plus les zéros de ces scandales de corruption qui se succèdent et qui se traduisent dans un niveau sociologique dans ce qu'on appelle la bolibourgeoisie. C'est la bourgeoisie bolivarienne qui profitent de ces attributions et ces devises d'une manière Et parfois, c'est cynique et drôle. Il y a des chevaux de course, par exemple. Ils investissent dans des chevaux de course, ils adorent ça. À Miami, vous avez un général vénézuélien qui a un cheval de course qui s'appelle Social Inclusion. Voilà, parce que le type est chaviste, quoi. Il est socialiste. C'est pour ça que je parle d'imposture. Mais quand même, c'est des chevaux de course qui coûtent des fortunes. Et comment un général vénézuélien peut avoir un tel main de dollars? Voilà.
Bon, là, les deux pays se ressemblent de plus en plus.
Là, oui. Là, pour trouver les similitudes, ça, tout ça vous parle, j'imagine. C'est... Oui. Voilà.